48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Eh bien, nous voilà donc réunis à nouveau pour un magazine spécial Art et Éducation, mademoiselle Christelle Mélène. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec notre invité aujourd'hui, donc il faut rappeler quand même que cette émission un peu spéciale, puisqu'elle est animée dans le cadre du Festival de la Petite Roulotte, voilà, le 22e du nom. Et puis, l'idée, ben, c'était un petit peu de faire le tour avec vous, donc certains invités que je vais présenter, sur l'importance de l'art dans l'éducation, mais pas seulement, dans l'éducation au sens très large, c'est-à-dire tout au long de la vie. Voilà. Donc, pour ce faire, eh ben, ma co-animatrice Yaël Savajol, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, nous avons aussi Cathy Jouglet, Pierre-Marie et Fabrice Roumier des ateliers du Capricorne. Bonjour.
C'est ça. Voilà. Bonjour.
Donc, Christelle Mélec, j'ai déjà présenté de la compagnie Élise Théâtre. Bonjour, Christelle.
Bonjour, Nicolas.
Voilà. Nous avons aussi Sophie Baroul, très connue en Lozère, puisqu'elle anime des ateliers et puis elle fait aussi partie de la compagnie du Lézard, voilà, de Manaou.
Bonjour, Nicolas.
Et puis enfin, pour représenter la grande maison de l'éducation nationale, aujourd'hui, nous avons Nadia Ours de la Canopée. Bonjour, Nadia.
Bonjour, Nicolas.
Voilà, donc les présentations sont faites, le débat peut commencer. Alors, parler du rôle de l'art et de l'éducation, alors peut-être dans une première partie, expliquer un petit peu, déjà vous en tant que compagnie, le fait de faire des spectacles pour jeunes publics, est-ce que c'est un choix ou est-ce que ça s'est avéré comme ça naturellement, ou est-ce que derrière vous avez l'impression d'avoir une mission d'éducation? Alors, peut-être Cathy?
Alors, c'est un choix, dès le départ. C'est une volonté, même, plus qu'un choix. Et pour moi, l'art à l'école, c'est ouvrir une porte sur ce que j'appellerais la pensée non normative. Puisque pour moi, l'école... Bon, j'ai assez mal vécu l'école... d'une façon générale. Et donc, du coup, pour moi, l'école, c'est quelque chose d'assez carré. Et l'art permet justement de
sortir de ce cadre, porte, c'est ça?
Oui. Ouais. Voilà.
D'accord. Christelle, toi, c'est un...
C'est vrai que ça peut être qu'une... enfin, un choix, parce que sinon, de subir le jeune public, ça serait un peu compliqué. Donc oui, c'est un vrai choix. Moi, je fais du théâtre, plus particulièrement de la marionnette. Le fait que ça puisse se passer avec de la sensibilisation autour et ça permet au futur public de venir ensuite au théâtre. Donc c'est une ouverture... que pourraient pas amener tous les parents, parce que ça serait beaucoup, beaucoup de temps pour eux.
Sophie ?
Oui, non, mais moi, je rejoindrais tout à fait ce que disent Cathy et Christelle. C'est vrai que c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte aussi une façon de s'exprimer différente, à une rencontre avec les autres, et que permet pas forcément l'école. Voilà, l'école demande... de rentrer dans... J'avais une prof qui disait qu'il fallait rentrer dans le petit moule. Voilà. Et l'école, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est rentrer un peu dans le moule. Et l'art permet justement aux enfants et aux plus grands aussi de sortir de ce cadre et d'avoir quelque chose peut-être aussi de plus personnel à montrer. Voilà.
D'accord. Donc, pour beaucoup, donc, ce sont de vrais choix, hein, apparemment.
Oh, absolument.
Voilà, c'est ça?
Oui, oui. Plus qu'un choix, je vous dis une volonté, en fait.
Alors... Ça vient de quoi qu'on se décrète artiste comme ça dans le jeune public, parce qu'on sait que ça n'a pas forcément bonne presse. Faire une carrière dans le jeune public, est-ce que c'est encore possible en France?
Est-ce qu'on pourrait dire les jeunes publics ? Ça m'intéresserait mieux que le jeune public, parce qu'avant on disait le théâtre pour enfants, déjà ça j'ai mes moyens. Après on a parlé effectivement du jeune public, le jeune public, et maintenant je pense qu'on parle plutôt des jeunes publics. Et c'est une notion qui a glissé et qui est intéressante parce que c'est aussi une façon de voir les jeunes publics complètement différents. Les gens qui vont pas forcément au théâtre, qui n'ont pas forcément accès à l'art, en général. Donc le fait de parler des jeunes publics, ça ne veut pas dire juste, ben voilà, c'est du théâtre pour enfants, comme on disait avant, on les jetait dans une salle et les parents continuaient dehors à parler. Donc ce n'est pas fait que pour eux. Les jeunes publics, je trouve que c'est une notion qui est beaucoup plus ouverte au travail qui est réalisé.
Alors tu dis ça parce qu'en fait, il y a un problème d'adresse, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même niveau de langage suivant qu'on traite avec des enfants de maternelle, des enfants de cycle 2, de cycle 3, ou des collégiens ou des lycéens.
Oui, oui, je dis ça parce que effectivement, c'est très très large on va dire le jeune public, mais c'est les jeunes publics, cette adresse-là est différente quand on travaille en direction des maternelles, quand on travaille en direction des primaires ou des collégiens ou lycéens. Bien évidemment, c'est complètement, c'est des mondes, quoi. Déjà, je vois en maternelle entre cycles, enfin les petits, les moyens et les grands, les apprentissages sont énormes. Donc, c'est peut-être qu'un an ou deux ans de différence, mais c'est des ouvertures, des niveaux de langage qui sont différents. Et nous, notre travail, ça devait être d'adapter même en gardant toujours la même exigence, mais d'adapter pour permettre des accès possibles à ces différents âges-là. Oui.
Alors quand tu dis adapter, ça veut dire que vous partez d'œuvres déjà écrites sur ces jeunes publics et vous construisez un spectacle autour de ça. Quelle est la démarche, en fait, que vous avez eu, puisqu'à chaque fois, ce sont des démarches très particulières. Alors peut-être Cathy, de la compagnie des Ateliers du Capricorne, donc qui présente là, dans le cadre du festival de la Petite Roulotte, le spectacle Marcelin Caillou. Donc Marcelin Caillou, tiré de l'histoire de Saint-Pé.
De Saint-Pé, oui. Là, c'est l'amour de Saint-Pé là, qui nous a dirigés, si vous voulez, tirés par les tripes, si je puis dire. C'est vraiment une admiration pour l'œuvre de Saint-Pé. Mais après... Bon, on n'a pas forcément des désirs chaque année, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Puis à un moment donné, on a une idée, on veut la concrétiser. Alors soit on l'écrit, soit on cherche quelque chose, ça dépend. Mais bon, au début, c'est à l'état gazeux, si je puis dire. Puis petit à petit, ça se défie pour se solidifier.
C'est nébuleuse, quoi, c'est ça ?
Voilà.
Un big bang. C'est un big bang qui se passe dans ta tête, en fait, un petit peu.
Non, disons qu'au début, voilà, c'est effectivement là-haut, tout là-haut, à l'état gazeux. Puis petit à petit, on va trouver des textes, on va trouver plein de documentation.
Les choses s'agrègent,
qui nous permet, donc ça s'agrège. Et puis finalement, ça solidifie le jour de la création. Mais au départ, ce qui nous motive, c'est le plaisir, c'est l'envie.
Oui, mais par exemple, alors c'est peut-être une question qu'on peut poser à Nadia Ours. Qu'est-ce qui suscite dans la littérature jeunesse, puisque ça fait partie de la littérature jeunesse, qu'est-ce qui suscite chez un artiste ou chez un enseignant, l'intérêt de lire tel ou tel. C'est que derrière, il y a un fond, c'est ça. Donc là, dans Marcelin Caillou, il y a quand même une idée de la discrimination et de la différence.
Oui, mais il aurait pu ne rien y avoir aussi. Simplement le plaisir de partager une histoire. On n'est pas forcément là, nous, pour éduquer les enfants. On est là pour ouvrir une porte sur autre chose,
sur du sensible,
voilà. Alors, très souvent, il se trouve que ce sensible est lié aussi à un message écologique, citoyen, ou voilà. Mais c'est pas... En ce qui me concerne, je cherche pas forcément à transmettre un message, avec le côté message, voilà. Ce que je cherche à transmettre, c'est plutôt le sensible.
Oui, puis pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai que tu parlais de notion de plaisir, mais je pense qu'il y a aussi des questionnements. Moi, souvent, c'est des questionnements qui j'ai envie de répondre à ça, des questionnements de société. Là, par exemple, sur le spectacle que je présente, même si c'est pour les tout-petits, c'était la notion du chemin de la vie. Donc, je voulais savoir comment on pouvait ralentir le temps. Donc, ça part des fois de choses toutes simples comme ça.
Sur des notions ou
des questionnements, vraiment des, ouais, enfin des concepts, oui, des questions.
Est-ce que, oui, mais ça naît un petit peu. Alors, on a rencontré il y a quelques jours une autre compagnie qui travaille, qui est venue sur le spectacle Mangez-le si vous voulez, et leur prochaine création va s'adresser aux ados spécifiquement, et traite en fait aussi de cette notion de temps, comme si le temps leur échappait. Et donc, pour eux, ils sont partis du constat en se disant l'art et la culture, en tout cas le théâtre vivant, va disparaître dans notre société parce qu'il n'est plus en phase avec le temps. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui qui vont avoir 20 ans bientôt, qui vont devenir des chefs d'entreprise, des enseignants, etc., ils sont tous en train de zapper, ils ont 2-3 iPhones ou d'autres portables, ils sont sans arrêt connectés, et en fait, tout va très très vite, quoi. Mmh. Et eux se posent la question, comme le théâtre est une autre notion de temps, et sur un autre temps, est-ce que le théâtre ne va pas disparaître ? Et j'ai trouvé la question vachement intelligente. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent de nos sociétés parce qu'en fait, elles ne sont plus en phase avec notre époque. Alors, est-ce que c'est l'époque qui va trop vite ? On a le sentiment quand même que ça va un petit peu vite. Ou est-ce que ce sont ces objets, donc, comme le théâtre ou ces champs artistiques, qui sont plus adaptés, qu'il faut réinventer quelque chose ?
Wow.
Non, voilà. Là, ça a planté le décor. Ouais.
Ambiance. Ouais, mais je ne sais pas si c'est une vraie question là, non, parce que le théâtre.
Il faut prendre
finalement,
le temps
c'est une parenthèse.
Oui.
Ouais. Hors sort ouais. de la représentation, ouais. On se dit tiens, il fait nuit. Oh, il neige. Exactement comme quand on sort d'une salle de cinéma.
Donc, toi, tu penses qu'on en a besoin de ça ?
La notion de temps au théâtre, c'est un suspens. Si on est rentré dans l'histoire, c'est une parenthèse. Donc,
c'est dans la démarche, après. Est-ce que le fait qu'il y ait une désertion des salles de spectacle, ça ne s'explique pas un petit peu comme ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps d'aller au théâtre. S'il y a une heure, il faut y consacrer une heure et demie, deux heures, trois heures, des fois. Est-ce que c'est la. Enfin, c'est ces questions-là aussi, c'est-à-dire.
C'est une habitude aussi, parce que si on va au théâtre assez régulièrement, les gens, après, ils continuent d'aller au théâtre. On ne va pas au théâtre comme ça, on ne rentre pas dans un théâtre, on pousse la porte, on dit tiens, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est vrai que la télévision, elle est dans son salon, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Alors que le théâtre, on ne connaît pas. Le cinéma, on peut savoir de quel film, enfin partager des choses avec d'autres. Mais le théâtre, souvent, on est un peu tout seul, on ne sait pas, c'est un vrai risque.
Il y a une interaction qui se joue aussi entre l'artiste et le public qui est importante aussi quand on y va.
Et là, on peut revenir au sujet de tout à l'heure. C'est vrai que si on n'a pas donné dès le plus jeune âge l'habitude aux gens et aux enfants de regarder les couleurs, c'est une pâte informe. Si on ne leur donne pas les mots, la notion de la poésie, des choses comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas, après, il n'y a pas cette appétence, finalement.
C'est une autre façon aussi, aller au théâtre dès le plus jeune âge à l'école. C'est une autre façon d'aborder les œuvres classiques, les albums classiques. Et c'est important de rencontrer les artistes aussi, du coup. Et de faire. Je sais que nous travaillons avec des artistes de théâtre.
Alors,
qui
il faut
vont,
expliquer
qui
peut-être
vont
que
aller donc, en ouais. classe, en fait.
Il faut expliquer que la canopée a une mission aussi de découvrir.
Le canopée, je suis désolée,
le
canopée. Nicolas.
Le canopée, parce que je trouve ça vachement plus
mais
beau.
Mais tu as raison, c'est plus joli. on va soumettre.
C'est le canapé et la canopée.
Voilà.
Ça fait le canopée, bon.
En fait, le canopée, c'est donc, juste pour resituer un petit peu, c'est le réseau d'accompagnement, de création et d'accompagnement pédagogique. Donc, on est sous tutelle de l'éducation nationale, donc opérateur public de l'éducation nationale. Et on a parmi nos missions de justement de favoriser l'éducation artistique et culturelle, dans les classes. De l'école au lycée. Et donc, pour cela, on fait intervenir donc, dans des projets différents, des artistes, des illustrateurs, dans les classes.
D'accord, des auteurs dramatiques.
Des auteurs, voilà. Dramatiques, des auteurs de spectacles vivants notamment aussi. et des illustrateurs, souvent d'albums de littérature de jeunesse. Et c'est vrai que pour revenir au sujet, on voit très bien que quand on fait intervenir ces personnes-là à l'école, les enfants, tous les enfants, en fait, sont happés, ils apprennent tellement plus de choses en croisant des artistes et en voyant leurs œuvres directement, leurs compétences dans le domaine artistique, notamment dans les pratiques et dans les connaissances des œuvres, sont favorisées. Hein. Et puis c'est un plaisir pour eux, et en même temps, du coup, pour les enfants en difficulté aussi, parce que ça, j'aimerais bien dire que pour les enfants qui sont en difficulté, c'est très important l'éducation artistique et culturelle. Donc ça,
c'est-à-dire que
ça favorise leur créativité et ça les aide à voir l'éducation autrement et à apprendre autrement. Voilà.
La confiance en eux aussi.
La confiance, l'estime de soi, voilà. Et notamment le théâtre, j'imagine que vous, vous voyez ça aussi dans vos ateliers artistiques.
Oui, tout à fait. On a intervenu dans le cadre de la SACPA au collège Henri Bourillon. On a travaillé 2 ans avec la même classe. Et c'est vrai que la première année, on les sentait assez renfermés, un peu méfiants vis-à-vis du théâtre, quoi. Puis c'est des jeunes, c'est des ados. Alors, ils sont assez... Et puis finalement, la deuxième année, quand on a travaillé avec eux, ils étaient, pour moi, je les ai vus transformés. C'est des gamins qui ont gagné en confiance en eux, en expression, en ouverture d'esprit, en ouverture vers les autres. Ils se sentent plus comme une classe à part. Ils sont des élèves comme les autres. Et ils font partie du monde.
Ça participe de leur intégration au sein de leur établissement.
Oui.
Est-ce que ça change pas aussi le regard de l'enseignant sur des élèves qui seraient en échec, par exemple,
tout à fait. Ça peut arriver. Il y a des enseignants qui sont plus ouverts avant même. Et après, il y en a... On a vu la différence de certains enseignants qui ont dit « Ah, mais celui-là, j'aurais jamais cru qu'il soit capable de faire ça. » Et c'est pareil pour les parents aussi.
Alors, qu'est-ce qui anime autour de la table des ateliers comme ça, en temps scolaire?
Oui, moi, j'ai un atelier en temps scolaire, oui. Avec des CM2.
D'accord. C'est-à-dire vraiment dans le temps scolaire ou c'est hors temps scolaire dans le cas d'étapes?
C'est un sel, en fait.
D'accord, oui, c'est le sel. Hors temps scolaire.
Enfin bref, il y a l'institut qui est là. Donc c'est en dehors du temps scolaire, mais finalement, comme c'est toute la classe, ils sont 22, c'est dans un quartier un peu difficile, disons.
C'est
il y en a partout, des quartiers. Oui, voilà. Ouais. Il y en a partout des quartiers un peu difficiles hein, en France. Voilà. Bon, là, celui-là, il est à Clermont-Ferrand, derrière la gare. Et donc c'est des CM2, ce sont des CM2, et c'est après l'école, mais en fait, étant donné que l'institut est toujours présente avec moi, il y a plein de choses qui se passent en classe. Ils écrivent des choses, et voilà.
Alors, quelle est ta démarche, toi, pour comment tu t'y prends avec les enfants comme ça? Ta première démarche avec eux, tu leur parles pas théâtre d'entrée, quand tu fais un atelier?
En fait,
t'as je support, pense... t'as quelque chose
Oui, alors soit on travaille sur un texte que l'institut aurait choisi, soit on travaille sur vraiment des classiques, Molière, Shakespeare, soit ils écrivent, ça fait un petit moment que je vais là-bas, et ça dure toute l'année. Et il y a une petite création, en général j'essaie de pas dépasser 20 minutes, je préfère faire 20 minutes correctes qu'une demi-heure moyenne. Voilà. En fait, moi je trouve que... ça sert essentiellement, comme vous disiez, à repêcher les enfants qui sont hors circuit. D'un seul coup, petit à petit, au fil des séances, c'est pas dès le départ, ils reprennent confiance en eux. Et du coup, ils s'intègrent mieux à la classe et ils sont moins jugés sur l'orthographe, tout ça. On peut se rendre compte que finalement, ces gamins-là, en impro, où ils sont capables d'apprendre des textes et de donner leur trip, s'engager vraiment. Puis après, tout ce qui est citoyen, c'est-à-dire arriver à l'heure, être prêt à travailler,
des choses comme ça. C'est ça.
Dans l'écoute du voisin, savoir se taire quand quelqu'un d'autre parle. Bon, ça prend petit à petit dans l'année, on voit que l'enfant bouge et s'épanouit tout en respectant des règles qui, au départ, il n'était pas prêt à les respecter, disons. Voilà. Bon, ça se passe en douceur, ça prend un petit peu de temps, voilà.
Christelle, une explication un petit peu de ce que tu fais, toi?
Alors moi, je suis souvent en tournée, donc c'est compliqué pour moi de mener des ateliers à l'année, mais j'en mène quand même plutôt des ateliers de sensibilisation à la marionnette, puisqu'on m'a un peu spécialisée sur ce secteur.
Tu es spécialisée sur ce secteur?
On m'a spécialisée, je dis, parce que c'est vrai que je pouvais faire aussi bien en théâtre, voilà, ça ne me gênait pas, mais comme on n'était pas beaucoup dans la région à intervenir sur la marionnette, souvent on me dit, si tu pouvais intervenir en marionnette. Donc moi, j'essaye justement qu'il n'y ait pas forcément de spectacle de production finale, parce que ça remet encore dans un processus où il faut absolument du résultat à tout prix. Donc je préfère vraiment ouvrir des portes. Je travaille autour des matières. Donc ce qui est intéressant avec la marionnette, c'est qu'il y a un support. Donc je vais travailler sur des marionnettes rapides pour qu'ils puissent voir qu'effectivement c'est pas forcément compliqué de fabriquer des choses.
C'est quoi une marionnette rapide?
Ça peut être des choses qui sont fabriquées en papier, par exemple.
D'accord, c'est-à-dire qu'ils sont réalisées rapidement.
Voilà, en une séance, c'est des marionnettes qui sont faites ou en mousse ou en fil de fer. Ça dépend des enfants et sur la matière sur laquelle je travaille. Du coup, après, ils peuvent se l'approprier et puis avoir aussi leur objet pour jouer avec. Donc ça va être 5 séances si j'arrive, ce que j'aime bien, c'est faire 5 séances d'approche de la marionnette pour ouvrir le plus de portes possible pour qu'après ils soient capables et de regarder un spectacle en comprenant un petit peu les techniques et puis ce qui se passe, et puis de eux-mêmes s'amuser à faire des petits spectacles d'ombre ou en famille, des choses qui peuvent s'approprier cet outil-là. Voilà, en gros, c'est plutôt ces formats-là. Après, je vais plutôt faire des choses qui sont autour des spectacles. Donc, parce que souvent, on nous demande quand...
C'est-à-dire que tu crées ton spectacle et ensuite, tu fais des interventions
qui sont liées à la
diffusion de ton travail.
Voilà. Ou ça ouvre, ça permet aussi d'accompagner. Parce que souvent, quand on est en jeune public, on nous dit, est-ce que vous avez préparé un petit dossier pédagogique? Alors, le petit dossier pédagogique, c'est donc des pistes. Enfin, ça explique notre façon de travailler. Par exemple, sur la petite reine, j'explique que moi, je me disais, tiens, comment je vais pouvoir ralentir le temps? J'en ai marre d'être dans un camion, tout va vite. Je suis à la moitié de ma vie, comment on va faire pour ralentir tout ça? Et si je prenais un autre moyen de locomotion, là en l'occurrence le vélo, qu'est-ce que ça pouvait faire par rapport au temps, par rapport au cheminement de la vie? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est parti comme ça. Et du coup, dans le dossier pédagogique, j'explique ce processus d'écriture et de création, mais je donne aussi aux instituteurs des pistes de travail, soit autour des albums, soit autour des écrits, soit autour de l'itinérance, des lieux de vie. Et après, moi, si on me dit, bon, ton dossier, c'est bien gentil, mais ce serait mieux que tu viennes, parce que, bien évidemment, l'instit, il a du mal à s'emparer des fois de nos outils, parce qu'il est très... Enfin, c'est normal, chacun a son métier. Moi, je fais pas du tout de pédagogie.
Mais c'est pas ton métier.
Voilà, c'est pas mon métier.
Il va mettre votre façon de faire, on va dire, des mots officiels...
Ça va pas être dans le même amusement c'est pas du tout les mêmes approches.
Oui, c'est pas les mêmes approches.
C'est très complémentaire en même temps, parce que c'est vrai que le fait de travailler pour les jeunes publics, on connaît l'enfant, on connaît les différents stades d'apprentissage, on fait attention. C'est vrai que là, par exemple, je sais que les tout-petits, ils vont avoir 35, 40 minutes d'attention grand max. Après, ça fait des vagues. Donc, on essaye de mettre une image toutes les 3 minutes, par exemple, de rester dans un théâtre d'image. Tout ça, on l'apprend petit à petit en étant artiste, puisqu'on travaille aussi avec ces mêmes choses que les enseignants.
Mais vous êtes complémentaires, de toute façon.
Non, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, mais ça peut relancer le débat, c'est effectivement comment ça a changé. Et là, attention, je vais dire un truc qui ne va pas forcément plaire à Nicolas. Les TAPS, donc les temps hors scolaire, ont complètement déformé les interventions artistiques. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est quand l'instit justement est là et est en complémentarité de ce qu'on fait. Les TAPS, il n'y a pas d'instit, il n'y a plus de niveau. C'est trois quarts d'heure, on est dans le zapping. C'est souvent des animateurs qui font ça. Il n'y a pas du tout de suivi. Et du coup,
mais c'est péjoratif quand tu dis c'est les animateurs.
Non, c'est pas péjoratif, c'est un autre métier. C'est, on n'est pas, voilà, c'est
pas la même approche. Je suis d'accord.
Oui,
avec
c'est ça, ouais, c'est pas la même approche.
Est-ce et que ça c'est, déforme.
Est-ce que c'est le même objet finalement, les TAPS? Est-ce que ça a été fait pour ça, pour vous?
Ah bah, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds dans les TAPS.
voilà. T'as jamais mis les pieds dans le TAPS?
Non, jamais. Mais en tout cas, pour moi, artiste, si j'ai un atelier, d'abord j'ai un seul et unique atelier par an, j'en veux pas 36. Ça fait longtemps que j'ai le même parce que justement je travaille bien avec cet instit, on se comprend et je sais que
t'as besoin de continuité.
Elle
en
comprend
fait.
L'univers et que chez elle, dans sa classe, chez elle en fait, elle fait sa partie de la chose. On est vraiment très complémentaires. Donc c'est vrai que les TAPS,
c'est trois quarts d'heure
dans tous les sens. Quoi.
Alors bon,
trois quarts d'heure dans une cantine, des niveaux mélangés. Avec 5 à 6 animations en même temps. Je dis le pire, hein, j'y ai pas
c'est
été,
un mais
c'est un peu ça.
En fait, il faut expliquer deux choses. D'abord, les TAPS, donc, c'est le temps périscolaire qui a été mis en place, depuis, obligatoire depuis cette année, mais il y en a qui sont en expérimentation déjà depuis 2 ans. Ça n'a pas pour objectif de remplacer tout le travail que vous faisiez, enfin, personnellement, les relations avec les enseignants. Le travail de l'art à l'école, de l'éducation à l'art, de l'éducation aux œuvres.
Je suis d'accord, mais en même temps, il y a beaucoup de municipalités qui ont retiré les budgets d'intervention en milieu scolaire parce qu'ils avaient des problèmes avec cette nouvelle chose à financer.
Alors, il y a la partie éducation nationale qui est propre à l'éducation nationale et qui est financée par l'éducation nationale. C'est le temps scolaire. Donc, dans ce cadre-là, il y a des financements qui peuvent être complémentaires, enfin, qui peuvent être abondé par les collectivités, mais ce n'est pas une obligation, d'accord ? Mais par contre, c'est à l'éducation nationale de faire ce travail-là. Les TAPS n'ont jamais été créés pour faire ce qu'on faisait dans le temps scolaire. Ça n'a jamais été fait pour ça. Qu'il y ait des dérives dans certaines villes ou dans certains villages, et qu'on ait vu là une façon d'agrémenter la garderie, peut-être, mais ce n'est pas l'objet. Après, c'est de responsabilité ces communes-là en leur disant dans ce temps-là, il faut se donner les moyens, organiser, donner le temps et le moyen pour que ces activités aient une vraie plus-value. En même temps, ces activités, ce n'est pas aussi des notions de résultats. Quoi. On n'est pas là non plus dans ces activités pour faire en sorte que les enfants ils aient des apprentissages fondamentaux. Ça ne sert pas du tout à ça. Ce sont des découvertes pour essayer ensuite que les enfants passe dans des ateliers qui sont comme ce que tu fais, Sophie, toi, le mercredi, etc., les week-ends, découvre autre chose. Les premiers résultats, c'est vrai que l'adéquation entre l'éducation nationale et le temps périscolaire qui est plutôt en charge des collectivités se passe pas forcément de façon optimale partout en France. Bon, les collectivités qui ont pris le devant, qui ont organisé les choses, qui se réunissent en PEDT, etc., arrivent à d'assez bons résultats. Après, ça veut dire qu'il faut aussi mettre des sous là-dedans. Voilà, des sous, du temps, des moyens, former les gens et pas s'en débarrasser. Le problème, c'est que quand, mais c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour tout le reste, quand on se débarrasse des choses, ben ça marche pas bien, quoi. Donc alors c'était juste pour donner un éclairage, pour pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'on peut pas dire les TAPS en général. C'est bien sûr, c'est pas le cadre pour une éducation à l'art. On est là sur une émission qui traite un petit peu de ça, et ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que le temps scolaire, le rapport au temps scolaire et la nécessité d'avoir une éducation à l'art et aux œuvres d'art dans le temps scolaire, c'est une...
C'est obligatoire.
C'est même... Alors, je crois que c'est cité par Chantal Chabanon.
C'est obligatoire depuis une circulaire aussi, depuis la circulaire de 2013, qui inscrit, en fait, de l'école au lycée, l'obligation de créer un parcours d'éducation artistique et culturelle. Hein. Voilà, donc c'est vrai que cela doit se faire en partenariat, bien sûr, avec les collectivités aussi, hein, en dehors du temps scolaire. Mais à l'école, c'est obligatoire.
C'est comme une autre matière.
C'est une approche transversale, hein, en effet, bon, et pluridisciplinaire, mais voilà, elle est obligatoire.
Alors c'est vrai qu'après, souvent les enseignants, ben, en plus quand on arrête de les former, ça ne peut pas donner de bons résultats, quoi, parce que depuis une dizaine d'années, 15 ans, la formation n'est pas quand même vraiment au rendez-vous, qu'on demande énormément de choses, notamment aux enseignants du primaire, qu'on demande beaucoup moins au collège, qu'il y a une disproportion à la fois de traitement, d'approche, de quantité d'enfants, de temps de travail. Entre le primaire et le collège qui ne s'explique pas vraiment. Un enfant qui arrive en CM2 qui passe en 6e, je ne vois pas où est vraiment la différence dans l'enfant, et qu'il n'y a pas de continuité, et que ça pose un vrai problème, même si aujourd'hui il y a des passerelles entre le collège et le primaire, mais n'empêche qu'en termes de dimension, de gestion de l'enfant, de son cartable, de tout, de son rythme, tout ça, on est sur...
Et de gestion financière aussi, parce qu'on voit bien que les primaires étant les communes, après les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, ça donne des choses complètement différentes avec des interventions différentes.
Et sur un...
Et ça, c'est problématique qu'il n'y ait pas de continuité. Et même qu'il y ait beaucoup d'endroits où il n'y a pas, tout simplement.
Alors c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai qu'un enseignant, quand il a fait les matières principales plus tout ce qu'on lui a rajouté, il n'a pas forcément les compétences, ni lui-même déjà une approche artistique. Donc la vraie question, c'est ça, c'est comment aujourd'hui on donne à l'école les moyens de remplir cette mission qui est une obligation dans les programmes, de façon intelligente, sans en avoir les compétences. Donc c'est vrai que la meilleure des choses, c'est de se rapprocher de l'artiste. Encore faut-il avoir les moyens. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est vrai, c'est d'inclure un programme. Donc c'est ce que tu fais avec ton instit, à part où c'est une enseignante de collège, c'est ça?
Non, c'est un primaire. Elle est à la fois directrice d'école et instit.
Mais là, ça vient en fait de la volonté de la personne.
Absolument.
C'est ça. Donc c'est un engagement d'enseignant. Et c'est vrai que dans tout ce que... Enfin, moi, pour ne parler de ce que je connais simplement depuis 25 ans, tous les accompagnements qui ont franchement marché, toutes les expérimentations et les histoires qu'on a pu créer, etc., viennent d'une relation étroite. Alors, soit entre un enseignant qui est, on va dire, passionné par l'art et la culture, ou un artiste, un médiateur et des enseignants. Mais c'est vrai qu'il y a cette nécessité de collaboration pour que les choses prennent forme. Sinon, effectivement, on en arrive à des dérives ou à du saupoudrage qui fait que ça ne donne pas de sens.
Oui, c'est clairement écrit dans les textes qu'il faut une complémentarité entre le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Et voilà, donc du coup, c'est l'idéal de travailler ensemble voilà, pour favoriser ce parcours artistique et culturel.
Et on se rend compte, nous, artistes, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enseignants absolument remarquables et très motivés. Il y a beaucoup d'enseignants qui... Parce que bon, on dit, ouais, c'est des fonctionnaires, patati, patata. Il n'empêche qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui se bougent, qui essayent de trouver des moyens pour nous faire venir et qui travaillent avec nous en étroite collaboration, entente, et qui sont vraiment des gens très motivés. Il y en a beaucoup.
Alors Cathy, ça va faire l'objet de la deuxième partie, donc vos témoignages là-dessus, vos rencontres, les coups de cœur que vous avez eus, parce que Cathy, ça fait un moment que tu œuvres, non?
Je vais peut-être donner la parole à mes collègues.
Ouais, tout à l'heure.
Ils attendaient que ça en plus depuis tout à l'heure.
On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite.
Les pauvres.
T'es content? Ouais, t'as bien des choses à dire.
J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras et de ta voix. quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loubar, tu serais mon lascar superstar. Moi j'ai si peur dans le noir.
Dans cette édition spéciale du MAG sur l'art, l'éducation et la culture, quel rôle dans notre société et quel intérêt, si ça disparaissait, ce serait grave, docteur, si ça disparaissait.
Ah, ça serait très grave, oui, ça serait très grave. Parce qu'en fait, je crois que, au final, ce que cela produit, entre guillemets, c'est pas le mot juste. C'est des enfants qui arrivent à penser par eux-mêmes, qui arrivent à se faire...
Un libre arbitre, c'est ça ?
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire, en fait, l'art, le rapport à l'éducation et à l'art, c'est... on rend les enfants autonomes ou critiques, c'est ça ?
Ben, il me semble que cela fait partie de l'éducation nationale, c'est-à-dire que l'école sert à ça, devrait servir à ça, et sert à ça souvent, ça dépend des instituts, mais la plupart du temps, ça sert à ça, c'est-à-dire... amener l'enfant à savoir réfléchir, avoir sa propre opinion sur ce qui l'entoure, et l'art vient compléter ça, précisément. Vient ouvrir des portes qui lui permet d'accéder
à sa personne, à sa pensée. Il y a quelques mois, par exemple, quand même, après les événements à Charlie, hein, à Hebdo, tout le monde s'est retourné vers l'éducation nationale, vers le milieu artistique, en disant, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des enfants qui sont passés à travers, qu'est-ce qu'on a loupé ? Donc, bien évidemment, quand il y a souci, j'allais dire, tout de suite, on voit l'importance, et puis après, on oublie ou on n'a pas l'argent pour, et voilà. Mais on voit bien, effectivement, l'importance de ça. Souvent, c'est des jeunes qui se laissent influencer, qui n'ont pas eu les outils nécessaires pour arriver à juger de par eux-mêmes, donc ils se laissent un peu manipuler, quoi.
Donc ça empêche, enfin oui, donc ça développe l'esprit critique, l'esprit d'analyse, mais c'est ce qu'on veut vraiment, en fait. On veut vraiment que les enfants y...
Bah, peut-être que tout le monde ne le veut pas, mais l'artiste en tout cas, oui. Oui, je pense que quand même.
Dans notre société, en tout cas, c'est un choix de société qu'il faut rappeler, de développer le libre arbitre et la liberté de penser.
Moi, il me semblait que l'école, c'était à ça.
Alors, Nadia, sur cette question-là.
Non, mais l'école est là pour faire acquérir justement des repères aux élèves, des repères culturels, des repères. Voilà, et la liberté d'expression, comment la développer, et l'esprit critique, vous avez raison, c'est l'école est aussi là pour ça, mais pas que l'école, bien sûr. Mais,
pas que l'école.
Pas que l'école. Et l'éducation artistique et culturelle, bien sûr, favorise justement ces objectifs-là.
Sauf que c'est un processus qui est difficilement évaluable. C'est-à-dire, autant en mathématiques, on sait faire l'exercice ou pas. Autant là, dans la notion d'art et de culture, comment vous, en tant qu'intervenant, vous appréhendez ça ?
Autant en mathématiques, il y a plusieurs chemins pour arriver au même résultat en mathématiques.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que...
A plus B égale X, oui.
L'enfant peut très bien trouver le bon résultat sans prendre le chemin normatif. Il peut découvrir lui-même un autre chemin pour arriver au bon résultat. En fait, si c'est aligné un raisonnement caillou par petit caillou, il n'est pas obligé de prendre le même chemin... Il peut en trouver un autre. L'essentiel, c'est qu'il arrive au bon résultat. Donc, les mathématiques servent aussi à savoir penser, à avoir un raisonnement logique. Mais il n'est pas forcément...
Ça organise la pensée, oui.
Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, du coup.
Non, c'était plus
tout, une question. Tout sert à ça, quoi.
Mais c'est vrai que c'est dur d'évaluer.
Le jeu, tout.
Non, ouais. C'était sur la notion d'évaluation. C'est-à-dire que ce qu'on aime bien dans l'éducation nationale, c'est évaluer.
Ouais.
Savoir où on en est, savoir comment grandit l'enfant. Mais c'est un peu normal. La mission de l'enseignant, c'est de donner des apprentissages fondamentaux, des repères.
Et il n'y a même plus il n'y a plus forcément besoin des mêmes apprentissages qu'avant. Avant, on nous faisait apprendre les départements, la carte de France. Maintenant, on peut tout trouver par Internet. Il faut juste donner des outils. Voilà, donc c'est pour... Tout à l'heure, je parlais d'outils, mais c'est vraiment ça.
Apprendre à apprendre. Ça, on y est.
Chercher, en tout cas. Plus qu'à apprendre, peut-être chercher, découvrir. C'est vrai que par exemple les notions de couleur, d'esthétisme ou tout ça, on peut voir tous les tableaux, on peut visiter tous les musées par internet sans se déplacer, mais encore faut-il avoir cette
appétence directe
avec Google Art
par exemple.
Sans se déplacer, oui, c'est ce qu'ils ont fait avec cet outil magnifique qui permet d'avoir des visites virtuelles dans les plus grands musées, Guggenheim, voilà.
C'est une vraie chance.
Aujourd'hui, c'est un vrai outil. Mais moi, je pense aussi que ça passe quand même que l'appropriation, si tu veux, donc là, sur les pratiques artistiques, on va y venir, mais l'appropriation de savoir permet, si tu veux, d'assembler ou de comparer. Si à force de ne plus rien apprendre, c'est ce qu'on constate aussi, de ne plus rien lire, mais de savoir qu'on peut le trouver sur Internet, est-ce que c'est pas aussi une certaine défiance? Est-ce que c'est pas une société qui se dit, bon, je sais que je peux le trouver, mais j'ai pas besoin de l'apprendre? C'est-à-dire, ça, c'est souvent un discours qu'on entend pour simplifier les choses ou chez les enfants qui n'ont pas envie d'apprendre.
Il faut pouvoir toucher, je pense. Enfin, moi, je suis marionnettiste, alors j'en reviens aux mains, à cette notion-là. Mais c'est vrai que, par exemple, j'aurais jamais réparé, je sais pas, dans ma voiture, j'ouvre mon capot, je sais pas réparer une voiture. Mais
sur Internet,
je regarde comment on fait, et puis on découvre. Mais c'est sûr qu'il faut avoir.
Mais le savoir, quand même, est important.
Oui, je pense qu'il y a des bases quand même à apprendre, justement, tous les repères historiques aussi dans l'histoire des arts. C'est ça qu'on fait à l'école aussi, dans toutes les matières aussi. Voilà, l'histoire des arts se fait en musique, en éducation, en art visuel, donc art plastique, se fait à travers l'éducation
à l'image,
avec le cinéma. Voilà, donc je trouve que c'est quand même important d'avoir, du coup, c'est ce qui est important dans les programmes scolaires, hein. C'est ça qui est bien noté. Acquérir tous ces repères culturels et historiques pour pouvoir faire après avoir sa propre opinion et pouvoir justement développer son côté sensible aussi, critique. Voilà, je pense que c'est quand même... c'est très important.
La boîte à outils.
La boîte à outils de Christelle Mélène. Alors vous, dans vos ateliers, alors il y a... Monsieur Fabrice Roumi qui vient de nous rejoindre et qui va peut-être nous expliquer sa façon, lui, de travailler si tu travailles avec des enfants et quelles sont les notions que tu abordes. Comment tu t'y prends?
Alors, pardon, c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles... plein de choses que je voulais dire. Alors du coup, peut-être que ça va être un peu brouillon. Tout d'abord, je crois que ce qui est super important, en fait, là, tout de suite, c'est que, donc, sur tout ce que vous avez dit, effectivement, on est convaincus, nous, que l'art doit exister à l'école, maintenant. Enfin, moi, j'en suis convaincu, et je parlerai des raisons qui me sont moins personnelles, peut-être, après. Mais je crois que le premier travail, aussi, c'est de rendre sa légitimité à l'art dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, j'ai entendu dans les écoles des parents qui disaient « Mais moi, je préfère qu'il fasse ses devoirs plutôt qu'il aille au théâtre » ou « Je préfère qu'il aille... » Et donc, du coup, il y a une, Il y a une seconde zone, en fait. L'art, c'est vraiment un accessoire ou c'est vraiment...
C'est annexe, c'est ça ?
C'est annexe, voilà. Et donc, je trouve que ce qui est important, c'est de travailler pour rendre sa légitimité et montrer qu'en fait, bah, c'est super important. Alors, c'est super important par rapport à moi, par exemple, mes objectifs. Et moi, je me fixe des objectifs souvent qui sont à peu près les mêmes hein, sur mes ateliers. Donc, moi, je travaille avec des petits. Là, tout de suite, j'ai un peu lâché des petits.
Classe maternelle ?
Alors, oui, j'ai fait classe maternelle et j'ai fait... surtout des primaires. Je les ai un peu abandonnés parce que comme j'en ai trois chez moi, j'ai dit maintenant, je vais un peu m'occuper de... Et donc là, je travaille en lycée de bac théâtre, en fait. Donc là, je m'y retrouve un peu mieux. Mais mes objectifs, ils sont très simples. Je n'ai pas d'objectif de résultat. J'ai un seul objectif, c'est de me dire à la fin, chaque élève a pu progresser vers quelque chose. Alors, ça peut être sur l'écoute, ça peut être sur la diction, ça peut être... Mais en tout cas, qu'on soit allé vers quelque chose. Et ce qui, du coup, montre qu'il y a eu un changement ou qu'il y a eu une prise de conscience de quelque chose.
Après, ça, c'est évaluable.
Oui, mais je veux pas me dire... Je veux pas me dire, voilà, il faut que tous, ils savent écouter, tous, il faut qu'ils savent... c'est vraiment se dire, bon, bah, ils ont progressé vers quelque chose et ça me paraît super important. Parce que je crois que... ce qui est important, c'est qu'ils aient expérimenté et vécu des choses. Et après, ça a développé chez certains le fait de mieux parler, ça a développé... mais encore une fois, le théâtre est pas enfin, c'est pas une thérapie. Donc, tout ça, c'est un petit
ça
peu...
Ça peut l'être. Hein,
Alors, ça peut l'être, mais nous... Enfin, moi, c'est ce que j'explique dans mes ateliers. Oui, avec des adultes, je leur dis bien que je suis pas médecin. Donc, mais non, mais parce que ça peut, effectivement, débloquer. Oui. Mais tant mieux si ça le fait. Mais en tout cas...
Il y a plein d'exemples.
Plein de manières d'améliorer.
Et puis, je pense qu'il y a de la thérapie par le théâtre. Et je pense
que c'est deux choses différentes.
Mais c'est deux choses... Voilà, pour nous, c'est... Pour moi, c'est deux choses différentes.
Alors, peut-être Yaël peut témoigner parce que, justement, elle met en place un certain nombre de choses, et notamment avec des jeunes.
Oui, en fait, donc avec des jeunes et en un partenariat avec la radio, on va voir des spectacles, en fait. C'est des ados, et on va voir des spectacles. Les thématiques, ils choisissent des spectacles, soit qu'ils n'auraient pas du tout envie de voir, donc ça, c'est intéressant, soit qu'ils ne connaissent pas du tout. Et donc...
Ce sont donc des enfants qui n'allaient jamais au spectacle,
non.
Qui étaient
non,
complètement...
Non. Voilà, qui n'allaient pas au spectacle. Donc l'idée, c'est ça. Donc soit ils ont un thème qui leur plaît, qui leur parle de suite. Donc là, effectivement, ils sont très enclins à y aller. Soit une année, on a choisi un spectacle que personne ne voulait aller. Et finalement, donc, on se renseigne sur l'artiste, sur ce qu'il a fait, sur comment il a produit ça, pourquoi il l'a produit. Donc il y a un intérêt qui se fait. On va voir le spectacle et ensuite, on rencontre l'artiste. Et on lui pose des questions qu'on a préparées à l'avance. Et c'est super de voir cette interaction qui se fait, et notamment sur des choses qu'il découvre, parce que c'est des très belles découvertes des fois, ou des fois c'est surprenant. Donc le spectacle peut nous parler de différentes façons, ou leur parler de différentes façons. Et quand il rencontre l'artiste, du coup, il le voit aussi d'une autre façon. Donc c'est vraiment super. Et on voit tout à fait une évolution avec les jeunes, justement, et les rencontres avec les artistes qui se font. Parce qu'au début, par exemple, notamment sur les spectacles qu'ils n'ont pas envie de voir, ils rigolent un peu avant, ce qui est normal. On voit le spectacle et là, ils sont très respectueux. Donc c'est déjà super parce que quand on va voir quelque chose où on n'a pas spécialement envie, ou... voilà, donc ils sont très respectueux. Quand ils écoutent l'artiste, ils ont une autre façon de voir. Et après, ils arrivent à donner leur avis dessus, à dire si ça leur a plu, ce qui leur a plu, ce qui les a interrogés. Donc l'interaction est vraiment super, quoi. Et mais on voit des évolutions.
Mais ça demande un boulot quand même de préparation, ça.
Ah oui, mais ils le font, ils sont très assidus, ils préparent les questions, ils se renseignent. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se projeter, de voir pourquoi ça a été produit, qu'est-ce qui a été fait, et toutes les questions qui en découlent. Donc après, ils arrivent avec leurs questions à eux. Et on pourrait se dire, ça fait 2 ou 3 ans maintenant qu'on fait ça, qu'ils pourraient reprendre les mêmes questions, mais pas du tout. À chaque fois qu'ils préparent une interview, c'est des questions complètement différentes qui émergent. Et c'est ça qui est bien aussi, quoi.
C'est vrai qu'il y a un vrai changement, une transformation.
Entre le début de l'année et la fin de l'année, ils n'appréhendent pas les choses de la même façon. Ils apprennent
média,
à écouter les réponses.
Il y a le média radio aussi qui était en fait qui est plus un prétexte hein,
ouais.
Qu'autre chose, mais donc ça les motive quand même puisque derrière ils construisent une parole qui va être enregistrée et qui après est redonnée. Et du coup par ce média,
ça donne de l'importance,
voilà. Et ça les concentre aussi.
Ouais. Puis même pour eux, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils se posent, ils écoutent. Au début, ils posent les questions de façon un peu mécanique, ce qui est normal parce que voilà. Puis après, ils écoutent la réponse de l'artiste et ils arrivent après à reformuler des questions. Donc entre le début et la fin de l'année, il y a des évolutions qui sont fabuleuses, quoi. Et des découvertes aussi artistiques très très agréables.
Moi, je voulais revenir sur la notion d'évaluation, parce que moi, je trouve que du coup, évaluer l'art, ça perd de suite de son charme. Ça
c'est le fait. Pas évaluer l'art. Hein.
Oui, mais c'est évaluer les enfants, mais ouais. Sur l'art, je trouve que ça perd de son charme, ça n'a plus d'intérêt. Moi, j'ai fait partie d'une classe théâtre au lycée, et du coup, être dans une option de théâtre au lycée, avec une pression au bac, d'avoir une vraie matière, que ça soit une vraie matière, j'en ai été dégoûtée. J'ai failli arrêter le théâtre complètement à cause de ça, parce que vraiment, on était rentrés dans quelque chose... Oui, bah, c'était comme de l'histoire, de la géographie, du français, c'était voilà, et ça devenait trop scolaire, et ça n'avait plus d'intérêt. Et en plus, on avait beaucoup de pression, beaucoup de demandes, et ça devenait vraiment plus possible. Voilà. Donc, pour ça, moi, l'évaluation, je suis pas d'accord. Après, nous, il y a des enseignants parfois qui nous demandent quelle note je leur mets. Eh ben, tu leur mets tous un 20 parce que de toute façon, ils ont tous progressé, ils ont tous réussi à la fin, donc. Ils ont tous 20.
Mais même sans progresser, on peut voir aussi des enfants qui sont très turbulents, qui vont voir un spectacle et qui, du coup, alors qu'on dit où, ils bougent tout le temps, ne parlent pas, écoutent, ouais, sont complètement subjugués, sont passionnés par ce qu'ils voient, ou un tableau, ou un artiste. Et
c'était le dernier spectacle que vous avez vu avec eux?
Non, c'était pas par rapport à ça que je parlais, c'était de façon générale quand on va voir des spectacles. Là, le dernier spectacle qu'on a vu, c'était Tir à vol.
D'accord, spectacle de cirque.
Spectacle de cirque fabuleux, et du coup, ils ont été complètement captivés, ils ont adoré, quoi.
D'accord.
Et je pense qu'après, pour en revenir là-dessus, je pense qu'après, l'évaluer ou donner une note, à mon avis, c'est plus le regard de l'instituteur par rapport à ces enfants-là, qui doit se dire, ouais, lui, il a progressé là, comme ça, donc on va aussi s'en servir, mais pas forcément mettre une note ou dire, il a progressé. Par exemple, pour comparer avec les instituteurs, par exemple, ils ont une formation. Enfin, avant, il y avait une formation. Mais je trouve que...
Encore aussi.
Mais il y en a toujours une, mais c'est vrai qu'elle a perdu quand même.
Mais surtout, par rapport à avant ou même par rapport à maintenant, juste pour finir ce que je veux dire, par exemple, on peut évaluer qu'il soit fort en maths, qu'il soit... Mais est-ce qu'on va savoir évaluer s'il est capable d'être en face d'une classe et de savoir transmettre un... Qu'est-ce qui évalue ça? Rien du tout. Et ben, le théâtre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est pas vraiment capable d'évaluer. Simplement, on va voir effectivement une progression ou quelque chose. Et un instituteur qui est en phase avec sa classe ou en phase avec les enfants, qu'est-ce qui permet de l'évaluer? Ben, pas grand-chose, quoi. Un savoir-faire, un savoir-être. C'est très compliqué, ça. Et ben, je trouve que c'est un peu du même ordre. Enfin, voilà.
En Lozère, on a la chance d'avoir une personne. Qui s'appelle Chantal Chabanon, qui est donc la conseillère pédagogique en art visuel, et qui accompagne les enseignants justement dans leur pratique avec les élèves.
Ce qui existe quasiment
pas d'ailleurs en collège. Et qui fait un travail formidable. Et donc elle forme maintenant, c'est pour ça que je voulais dire que ça évolue quand même un petit peu, parce que dans la formation des enseignants, donc à... Maintenant, ça s'appelle l'ESP, donc l'IUFM, l'ancien UFM. Voilà, cette personne essaye de justement, voilà, de former les futurs enseignants, les futurs professeurs des écoles. Voilà, donc pour pratiquer l'éducation artistique et culturelle.
Sur la formation et l'accompagnement sur des projets. Donc c'est quelqu'un qui a réalisé énormément de projets,
voilà,
avec des enseignants. Qui vient en support, qui vient en outil, des fois, lui dire, tu vois, là, faut que tu appelles telle personne, ou je connais tel artiste, on va voir avec elle, etc. C'est vrai que c'est. En fait, elle fait tout un travail de médiation pour faire rentrer les pratiques artistiques, l'art, ou des expositions, ou des artistes dans l'établissement scolaire, et que les enseignants aient un support. Mais bon, il y a une personne sur tout le département.
Et le Canopé aide aussi, je travaille moi en partenariat vraiment avec elle.
Alors en fait, je dis une, mais il y en a deux. Il y a une personne chargée aussi du théâtre et de la musique et de la danse. Et Evelyne Surachi. Et puis, il y a
Chantal Chabanon. Chantal Chabanon.
Et puis après, bien sûr, il y a le Canopé qui intervient. Mais tous ces outils, en fait... après, il y a d'autres structures qui ne sont pas directement liées à l'éducation nationale, mais qui ont des conventions, comme la scène conventionnée de Lozère. les scènes croisées, qui interviennent aussi dans ce champ-là. Bon, la Ligue de l'enseignement avec d'autres événements, notamment la petite roulotte, qui n'a pas pour objectif en plus de remplir toutes ces missions-là, mais simplement de donner envie, de faire découvrir, de raccrocher les enseignants et les enfants sur ce rapport aux œuvres que vous avez proposé, que vous continuez de proposer. Et pour la petite histoire, moi j'ai une petite histoire qui est assez drôle. Hier on était à Villefort. En 95, je fais venir un spectacle qui s'appelle Louis l'enfant de la nuit dans les écoles primaires. 10 ans après, le collège de Villefort me rappelle et fait c'est bien vous qui avez diffusé un spectacle sur Louis Lumière. Je dis oui, ça doit être ce spectacle-là, etc. Et ben, j'ai des enfants qui me le redemandent. Les enfants, ils avaient passé 10 ans, ils étaient en collège, en 4e ou en 3e, ils travaillaient sur le théâtre, sur le rapport à la matière, etc. Et ils avaient demandé à l'enseignant de trouver, et il s'avérait que la compagnie avait repris, donc c'était le train théâtre de Jérusalem, et qui avait repris ce travail-là, et donc on les a fait revenir, et on a été accueillis, mais c'était fabuleux, parce qu'ils avaient tellement d'images en tête, de souvenirs, d'empathie pour ce spectacle, qu'on s'est dit, ben, au moins on a servi quelque chose. Et régulièrement, quand on passe avec la petite roulotte dans des villages, comme ça va être le cas là, ou dans des bistrots, on vient présenter l'événement, et puis les gens disent, ouais, mais on connaît un côté, hein. On y allait quand on était enfant. Je dis, bon, ben, on a pris un gros coup de vie. Et en même temps, les gens le disent, et à chaque fois, ils disent, oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Alors, je me souviens d'un spectacle, et c'est parti, quoi. C'est-à-dire qu'en
ça
fait,
marque, hein.
Ça marque. C'est-à-dire que l'art, les œuvres en général et leur rapport fait que c'est du sensible, c'est pas seulement une notion de savoir, et que cette évaluation, que ça fait partie pour moi de l'évaluation de ce qu'on laisse, de la trace qu'on laisse, et que si les gens vont au spectacle vivant, c'est parce qu'ils ont eu ce rapport à un moment donné ou cette empathie par rapport à l'œuvre. Alors sur Marcel et Caillou, je trouve qu'elle y est énormément, parce qu'ils sont très très attachants, ces personnages. La façon que tu as aussi de le compter, le rapport à la marionnette, à la forme, au dessin, à la mise en lumière d'une intelligence extraordinaire, avec ce vidéoprojecteur cette tache de couleur qui vient comme ça sur une petite marionnette blanche, la faire rougir. C'est bon, il y a plein de trouvailles, et je pense que ça, donc j'en parlais hier avec des enseignants quand vous étiez sur Villefort, et ça c'est une émotion qui va rester très très longtemps chez les gens, en fait. Et c'est, je pense, moi, un rôle fondamental de l'art dans l'éducation, ou en tout cas en général, c'est de développer cette empathie, quoi. C'est de faire ce rapport aux œuvres, mais aussi à la joie de vivre, au bonheur, hein. Ça donne cette notion de bonheur.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
C'est une empreinte. Plaisir. Ouais. Une empreinte dans...
ouais, c'est une empreinte
en fait, comme une empreinte dans le sable. C'est discret, mais ça accompagne.
Mais elle s'efface pas.
Ouais. C'est une façon c'est les premiers pas sur un chemin d'homme, quoi. Mais c'est très curieux parce que moi aussi, ça fait très longtemps que je suis dans le métier. Parfois, je rencontre des jeunes adultes. Effectivement, ils ont des souvenirs, des spectacles. Mais ce qui est aussi étrange, c'est qu'ils ont, on ne sait pas quels souvenirs ils vont avoir. Ça peut être extrêmement surprenant. Ah, oh, tiens, il se souvient de ça. Et c'est un petit détail d'un petit détail.
Oui, c'est
toute
ça.
Toute petite
oui.
chose qui est restée parce que, bon, ce gamin-là, à ce moment-là, cette chose-là l'a pénétré, a vraiment entré en communication avec lui. Alors, bon, effectivement, nous, on s'applique, on cherche des idées, on essaye de faire le mieux possible. Et puis, des années plus tard, on se rend compte que oui, c'est resté, mais c'est aussi resté d'une façon à laquelle nous, on n'avait pas pensé.
Oui, complètement. Et ils voient des choses, les enfants.
Pas tant, mais parfois.
Et les enfants voient des choses que nous ne voyons pas,
voilà,
nous aussi.
Voilà, exactement. Ouais.
D'accord. Alors, Christelle, elle, toi, ça fait de nombreuses années que tu reviens dans le cadre de cet événement. Ça fait longtemps, non ?
Oh, je suis encore un petit peu jeune quand même,
ouais,
merci.
Voilà, ça fait toujours
Mais oui, je suis venue souvent en Lozère, oui.
Avec la boîte de Pandore,
La boîte de Pandore, c'était en 98. Voilà, on va dire. Donc, c'était La Boîte de Pandore, c'était un spectacle pour les tout petits.
Oui, donc,
sur les émotions.
Qui a beaucoup marqué, ce spectacle.
Ah oui.
Ouais. Et puis, l'autre aussi, non, je ne me souviens plus bien le nom.
Je sais pas.
Pour ados, sur la télévision.
Une journée. Ah, celui qui a vu.
Voilà, celui qui a vu.
C'était sur un texte de Sylvain Levé. Ce que j'expliquais un peu, c'est qu'au départ, je suis venue avec des grosses, grosses équipes. Et puis, petit à petit, voilà, cette année, je viens toute seule.
L'économie du spectacle.
L'économie du spectacle a changé. Mais en même temps, j'aime bien aussi. Là, c'était une autre expérience. Je dis ça en plaisantant. Parce que sinon, après, on va dire, ah, les artistes, ils parlent tout le temps d'argent. Mais non.
Pas donc, là, c'est pas trop de propos. Mais c'est vrai que ça en fait partie. Parce qu'on a quand même besoin d'artistes, d'art à l'école. D'art à l'école, donc d'artistes, donc d'une économie autour de ça. Parce qu'un enseignant, ben c'est un enseignant, comme vous l'avez très bien dit, qui ne peut pas être à la fois enseignant et artiste, même si à côté, il peut en faire son passe-temps. Mais c'est compliqué, donc on a vraiment besoin...
Mais nous aussi, on a besoin d'aller dans les écoles. Ouais. Je pense que, travaillant avec les enfants, on a besoin aussi de... Enfin, moi, je sais que pour des moments d'écriture, des moments d'échange, j'ai besoin de me réapproprier aussi ce contact-là qu'on n'a pas forcément avec ses propres enfants. Donc, c'est dans les deux sens. On a besoin de s'immerger, voilà.
Eh bien voilà, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter, parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, il y aura encore plein de choses à dire. Bon, on en fera d'autres autour de ça, à chaque fois qu'on a des artistes qui...
Il y a des nouveaux enfants qui arrivent là.
Et des nouveaux petits-enfants qui arrivent.
Si c'est des enfants d'artistes, ça va être terrible.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous, et puis on se dit dans 15 jours pour le prochain mag.
Merci.
Bonne semaine, merci.
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 Au revoir.